Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Pierre Soulages.
Rien ne s'oppose à la nuit.
Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Premier épisode.
Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle, ce matin de janvier. Les mains comme tachées d'encre, au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il me fallut pour le comprendre. Malgré l'évidence de la situation, ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons, comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère, et surtout de son odeur? Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui? 4 ou 5 semaines plus tard, dans un état d'hébétude d'une rare opacité, je recevais le prix des libraires pour un roman dont l'un des personnages était une mère murée et retirée de tout, qui, après des années de silence, retrouvait l'usage des mots. Je n'ai aucun souvenir du lieu où se passait la remise du prix, ni de la cérémonie elle-même. La terreur, je crois, ne m'avait pas quittée. Je souriais, pourtant. Il me semblait qu'il valait mieux contenir le chagrin, le ficeler, l'étouffer, le faire taire, jusqu'au moment où enfin je me retrouverais seule, plutôt que me laisser aller à ce qui n'aurait pu être qu'un long hurlement ou, pire encore, un râle, ému sans aucun doute plaqué au sol.
Maman, grand-mère Lucille, elle s'est suicidée. En quelque sorte.
Encore aujourd'hui, quand j'y pense, cette question me bouleverse. Non pas son sens, mais sa forme. Ce « en quelque sorte » dans la bouche de mon fils de 9 ans. Une précaution à mon endroit ou une manière de tâter le terrain, d'y aller sur la pointe des pieds. Mais peut-être était-ce de sa part une véritable interrogation. Compte tenu des circonstances, la mort de Lucille devait-elle être considérée comme un suicide? Quelques semaines plus tard, mon fils me rappelait à l'ordre. Un chat s'appelait un chat. Grand-mère s'était suicidée. Oui, foutue en l'air. Elle avait baissé le rideau, déclaré forfait, lâché l'affaire. Elle avait dit stop, basta, terminado. Et elle avait de bonnes raisons d'en arriver là. Et puis j'ai appris à penser à Lucille sans que mon souffle en soit coupé. Sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa cigarette écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref, qui semblait l'étonner elle-même, les variations de sa voix sous l'emprise d'une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace. J'ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie. J'ai pensé que Lucille avait été successivement amoureuse de Marcello Mastroianni, de Joshua Schindler, d'un homme d'affaires prénommé Edouard, dont nous n'avons jamais connu la véritable identité, de Graham, un authentique clochard du 14e arrondissement, violoniste à 16 heures et mort assassiné. Je ne parle pas des hommes qui ont vraiment partagé sa vie. J'ai pensé que ma mère avait dégusté une poule au pot avec Claude Monet et Emmanuel Kant lors d'une même soirée dans une banlieue lointaine dont elle était rentrée par le RER et s'était vue privée de chéquier pendant des années pour avoir distribué son argent dans la rue. J'ai pensé que ma mère avait contrôlé le système informatique de son entreprise ainsi que l'ensemble du réseau RATP et dansé sur les tables des cafés. Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé. Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu'il lui avait fallu s'en échapper, où sa douleur n'avait pu s'exprimer que par la fable. Alors j'ai demandé à ses frères et sœurs de me parler d'elle, de me raconter. Je les ai enregistrés, eux et d'autres, qui avaient connu Lucille et la famille joyeuse et dévastée qui est la nôtre. J'ai stocké des heures de paroles numériques sur mon ordinateur, des heures chargées de souvenirs, de silences, de larmes et de soupirs, de rires et de confidences.
Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ?
J'ai demandé à ma sœur de récupérer dans sa cave les lettres, les écrits, les dessins. J'ai cherché, fouillé, gratté, déterré, exhumé. J'ai passé des heures à lire et à relire, à regarder des films, des photos. J'ai reposé les mêmes questions et d'autres encore.
Printemps 1954.
Et puis, comme des dizaines d'auteurs avant moi,
chaque jeudi,
j'ai essayé d'écrire ma mère.
Liane.
D'écrire Lucille.
La mère de Lucille envoie sa marmaille au secours.
Printemps 1954. Chaque jeudi, Liane, la mère de Lucille, envoie sa marmaille au square de la rue de Maubeuge. Les plus grands ont pour mission de surveiller les petits et pour unique consigne de ne pas revenir avant 2 heures. Pendant ce temps, Liane s'allonge sur le premier lit venu et dort d'un sommeil de plomb. 2 heures de silence pour récupérer des grossesses, des accouchements et des allaitements répétés, des nuits entrecoupées de pleurs et de cauchemars, des lessives et des couches sales, des repas qui reviennent sans trêve.
Tu viens après alors ?
Oui.
Lucille s'installe toujours sur le même banc, un peu à l'écart. Elle reste là, à trier dans sa tête, mais elle ne précise jamais quoi. Lucille trie les cris, les rires, les pleurs, les allées et venues, le bruit et le mouvement perpétuel dans lesquels elle vit. Quoi qu'il en soit, sa mère, Liane, est de nouveau enceinte. Ils seront bientôt 7, puis sans doute 8 et peut-être davantage. Lucille se demande s'il y a une limite à la fécondité de sa mère. Les femmes sont-elles soumises à un nombre d'enfants limité que Liane aura bientôt atteint et qui, enfin, laissera son corps inoccupé ? La mère de Lucille apparaît soudain à l'entrée du square, lumineuse et belle.
Je vais chercher Lucille pour une séance photo.
Oh non !
C'est pas juste !
Hey, attendez, regardez ! Moi aussi, je vais prendre la pose pour la photo.
Moi aussi, je vais aller avec Lucille.
Du calme.
Oui. Lisbeth, vous mettrez les 4 petits dans la baignoire, le feu sous les pommes de terre, et vous attendrez le retour de votre père. D'accord ?
Oh, mon cœur.
Oh, allez. À tout à l'heure, mes gentils.
Tu nous raconteras.
À tout à l'heure,
maman.
Oui.
Tu nous raconteras.
Au revoir.
Depuis quelques mois, Lucille est modèle pour des marques de vêtements ou de gamme pour enfants. Lucille aime les photos, mais ce qu'elle aime plus que tout, c'est le temps passé avec sa mère. Le trajet aller-retour en métro, l'attente entre les prises, le pain au chocolat acheté en sortant dans la première boulangerie. Ce temps volé qui n'est consacré qu'à elle et où aucun autre enfant ne peut revendiquer de tenir la main de Liane.
Lucille, tu veux bien tourner ta tête un petit peu à gauche ?
Voilà, c'est parfait.
Voilà, je te recoudre. Impeccable.
L'attention qui lui est portée met Lucille mal à l'aise. Avec ce sentiment que quelque chose de poisseux lui colle au corps,
Quel visage, ces traits sont si réguliers.
Et ce sourire timide.
À 7 ans, elle édifie les murs d'un territoire retiré qui n'appartient qu'à elle.
Comme elle est belle.
Tu as l'air si sale. Un territoire où le bruit et le regard des autres n'existent pas.
La séance est terminée.
Merci. 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 Le petit, celui qui était venu une fois avec Lucille, un peu plus jeune qu'elle.
Antonin, il vient d'avoir 6 ans.
Il lui ressemble beaucoup, non?
Oui, c'est ce qu'on dit.
Venez
oui.
Avec lui, on fera une série avec les deux.
D'accord. D'accord, Lucille?
Oui, d'accord.
D'accord, chérie?
Oui.
Dans le métro, Lucille prend la main de sa mère et ne la lâche pas de tout le trajet. Quand elles entrent dans l'appartement de la rue de Maubeuge, Georges, le père de Lucille, lit le journal. Les enfants surgissent. Lisbeth, Barthélémy, Antonin, Milo, Justine, vêtus du même pyjama en éponge que Liane a acheté au début de l'hiver, en promotion et en 6 exemplaires.
Alors ma belle, tu as fait des photos ?
Oui, papa.
Le regard de Georges sur sa fille semble empreint d'étonnement. Lucille a quelque chose de sombre qui lui ressemble. Lucille, plus que tout autre, est reliée à lui. Et Georges ne peut détacher son regard d'elle, fasciné.
J'étais une enfant très belle et ça m'a coûté cher.
Des années plus tard, quand ma mère serait morte, on retrouverait dans ses affaires les images publicitaires d'une petite fille souriante et naturelle.
Vous savez, ma Reinette, votre maman exerçait une certaine attraction sur les gens. Un mélange de beauté et d'absence. Cette façon de soutenir le regard perdu dans ses pensées.
Des années plus tard, quand il s'agirait pour nous de vider l'appartement de ma mère, on découvrirait au fond d'un tiroir une pellicule entière de photos du cadavre de son père, prise par elle-même et sous toutes les coutures d'un costume beige ou ocre, couleur de vomi.
Fa, sol, fa, do, ré, si, la.
La possibilité de la mort, ou plutôt la conscience que la mort pouvait surgir à n'importe quel moment, entre dans la vie de Lucille au cours de l'été 1954, à la veille de ses 8 ans. À la fin de juillet, Liane et les enfants partent à Elle, un petit village d'Ardèche où vivent les parents de Georges. Liane est enceinte de 7 mois. Un après-midi, alors que Lucille s'exerce au piano, des cris envahissent le jardin. Lucille sent son cœur battre dans son ventre, puis dans la paume de ses mains. Elle attend quelques secondes pour se lever. Quelque chose est arrivé. Elle le sait, quelque chose d'irrémédiable. Elle entend les hurlements de Liane. Elle se précipite hors de la maison. Elle découvre les enfants rassemblés autour du puits. Liane est penchée sur le trou noir et hurle le prénom de son fils.
Antonin et son cousin Tommy jouaient sur des planches de bois qui recouvraient le puits. Les planches ont cédé. Les deux garçons sont tombés. Tommy a refait surface aussitôt. On pouvait lui parler. L'eau était glaciale, mais il semblait tenir. Antonin n'a pas réapparu. Il a fallu me retenir le temps que les pompiers arrivent. Je voulais plonger. Mes beaux-parents s'y sont mis à deux pour m'immobiliser. Les pompiers sont arrivés. On a envoyé les enfants chez les voisins. Ils ont longtemps cherché le corps d'Antonin avant de le trouver. Le puits donnait dans une citerne. Antonin est mort d'hydrocution.
J'avais écrit la mort d'Antonin, considérée, dans la mythologie familiale, comme le drame inaugural. Il y en aurait d'autres. Pour cela, j'avais dû choisir, parmi les versions qui m'avaient été données, celle qui me semblait la plus vraisemblable, la plus proche en tout cas de ce qu'en racontait Liane, ma grand-mère, assise sur un tabouret dans cette invraisemblable cuisine jaune moutarde qui a marqué mon enfance et aujourd'hui n'existe plus. Qu'avais-je imaginé ? Que je pouvais raconter l'enfance de Lucille à travers une narration objective, omnisciente et toute-puissante ? Qu'il me suffisait de puiser dans le matériau qui m'avait été confié et faire mon choix, autant dire mon petit marché ? Mais de quel droit ? Sans doute j'avais espéré que, de cette étrange matière, se dégagerait une vérité. Mais la vérité n'existait pas. Je n'avais que des morceaux épars, et le fait même de les ordonner constituait déjà une fiction. Quoi que j'écrive, je serai dans la fable. Comment j'avais pu imaginer, un seul instant, pouvoir rendre compte de la vie de Lucille ? Qu'est-ce que je cherchais au fond si ce n'était approcher la douleur de ma mère, en explorer le contour, les replis secrets, l'ombre portée ?
Quelques semaines plus tard, Violette est née. Liane, accaparée par le bébé, ne passe plus ses longs moments, assise dans la cuisine, le regard dans le vide. Pourtant, l'air de l'appartement reste chargé d'amertume, comme saturé. Georges rentre le soir et parfois s'assoit sans un mot, harassé, le visage figé. Ni Lucille, ni aucun de ses frères et sœurs n'a vu ses parents pleurer.
Jamais plus l'enfance ne fut harmonie.
Désormais, la mort d'Antonin ne serait plus qu'une onde souterraine, sismique, qui continuerait d'agir sans aucun bruit.
Automne 1954, appartement de la rue de Maubeuge. Lisbeth et Lucille guettent l'arrivée de Jean-Marc par la fenêtre. La cour est silencieuse. Elle trépigne d'impatience. De lui, on sait peu de choses. Il s'appelle Jean-Marc et il a 7 ans. Il a été battu par sa mère, lui a été enlevé. Il s'appelle Jean-Marc et il faudra être gentil avec lui. C'est un enfant martyr.
Ah, je les vois.
Oui.
Ils arrivent.
Oui, il a un manteau, là.
Désormais, Jean-Marc va vivre sous le même toit. Dormira dans le lit d'Antonin, dont il portera sans doute les vêtements, ira à la messe et à l'école, montera dans la voiture pour partir en vacances. Il sera leur frère.
Bonjour.
Salut, papa.
Papa !
Vous avez eu des embouteillages ?
La route a dû être longue.
Donnez-moi vos affaires.
Tu as fait bon voyage ? Tu n'es pas trop fatiguée ? Tu as faim ?
Jean-Marc, je te présente tes frères et sœurs. Là, c'est Lisbeth, la sœur aînée. Puis Barthélémy.
Bonjour.
Lucille.
Salut.
Jean-Marc se tient derrière Georges,
Justine,
caché par le grand corps qu'il suit d'un pas hésitant. L'enfant lève les yeux et regarde Lucille, stupéfait. Yeux noirs. Agrandi, aussitôt ramené vers le sol. Lucille remarque alors ses ongles sales, les cernes noires, comme creusées par les larmes. Elle se sent envahie d'une grande tristesse, partagée entre l'envie de chasser l'enfant et de le prendre dans ses bras. Barthélémy, lui, sent une douleur brutale enflée en lui, comme s'il venait d'ingérer un corps étranger. Jamais il ne pourra aimer Jean-Marc. Jamais il ne pourra lui confier un secret ni conclure aucun pacte avec lui. Et l'autre pourra le regarder avec son air de chien battu et ses bras maigrichons. Il ne cédera pas. Son frère est mort et son frère est irremplaçable.
Je me suis arrêtée là. Une semaine est passée, et puis une autre, sans que je puisse ajouter au texte une ligne, ni même un mot. Pour avoir le sentiment d'avancer, j'ai décidé de retranscrire les entretiens que j'avais menés, les retranscrire mot pour mot. J'ai écouté l'altération des voix, le bruit des briquets, l'expiration des cigarettes, les kleenex qu'on cherche en vain et ceux dans lesquels on se mouche à grand bruit, les silences, les mots qui échappent et ceux qui s'imposent sans qu'on l'ait voulu. Lisbeth, Barthélémy, Justine, Violette et frères et sœurs de ma mère. Manon, ma propre sœur, et tous ceux que j'avais vus au cours de ces dernières semaines m'avaient accordé leur confiance. Ils m'avaient offert leurs souvenirs, leurs récits, l'idée qu'ils se font aujourd'hui de leur histoire. Ils s'étaient livrés, aussi loin que possible, aux frontières de ce qui leur était supportable. Maintenant, ils attendaient, se demandaient sans doute ce que j'allais faire de tout ça, quelle forme cela allait prendre, quel serait le coup porté. Et cela, soudain, me paraissait insurmontable.
Si j'avais été là, il serait pas mort.
Tu le termineras sur une note positive, ton roman. Parce que tu comprends, on vient tous de là.
La douleur de Lucille a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte. La douleur de Lucille nous constitue sans doute, ma sœur et moi. Pourtant, toute tentative d'explication est vouée à l'échec. Ainsi devrais-je me contenter d'en écrire des bribes, des fragments, des hypothèses. L'écriture ne peut rien. Tout au plus permet-elle de poser les questions et d'interroger la mémoire. La famille de Lucille, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire nombreux commentaires et hypothèses. Les gens que j'ai croisés au cours de mes recherches parlent de fascination. Je l'ai souvent entendu dire dans mon enfance. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Aujourd'hui, les frères et sœurs de Lucille, ceux qui restent, sont dispersés aux quatre coins de la France. Liane est morte un mois et demi avant ma mère, et je crois pouvoir dire sans me tromper que la mort de Liane, qui avait déjà perdu trois enfants, a donné à Lucille le feu vert qu'elle attendait pour mettre un terme à sa propre vie. Chacun a gardé des événements qui ont fondé l'histoire familiale sa propre vision. Ces visions diffèrent, se contredisent parfois. Elles sont autant d'éclats épars dont le rassemblement ou la compilation n'apporte rien. Un matin, je me suis levée et j'ai pensé qu'il fallait que j'écrive. Dussé-je m'attacher à ma chaise et que je continue de chercher, même dans la certitude de ne jamais trouver de réponse. Le livre, peut-être, ne serait rien d'autre que ça. Le récit de cette quête contiendrait en lui-même sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées. Mais il serait cet élan, de moi vers elle, hésitant et inabouti.
C'était « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Adaptation Louise Loubrieux, conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Premier épisode. Avec Elsa Le Poivre, Johanna Nizard et Cécile Gérard, Laurent Lederer, Aurélie Nusillard, Pauline Bell, Agathe Le Bourdonnec, Pauline Diadé, Brigitte Lecordier, Marie Daude, Jean-Claude Frissung, Sophie Dole, Élise Arpentinier, Emmanuel Apache, Jacques Garcie. Et les voix de Luce Mouchel, Jeanne Carillon, Eric Feldman, Franck Molinaro, Julien Sigana, Ombline de la Tessonnière, Nina, Nel, Lou, Paul et Madeleine. Bruitage, Sophie Bissens, assistée d'Elodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Dérété et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.